papa papa. Et dès l'époque de y'a papa papa, y'a papa papa, il est parti, ça va être la mouse bing bang party. Et dès les filles, bijou chouchou lidi diada, poupou zizi, mimi papa, y'a papa papa. On va se marrer, ça va être la mouse bing bang soirée. Ce qu'il faut, que bu, les coups, pou, i, o, i, a. Buvez tous les machins, laissez-moi le porto. Que bu, les coups, pou, i, o, i, a. Pour remplir le piano, je vais y prendre un bain, ça me fera du bien. Et gave les potes, hola, hola, voilà papa. Et l'idiote, toi dans de la voilà papa. Et dis Auguste, ne fais plus joujou avec le lustre. Gaffe les potes, oh là, voilà papa. Et Mariotte, toi dans de la voilà papa. Et Cristobal, laisse dans ce service de cristal. Tiens, papa n'est pas seul, qui donc qui l'amène? Cubu, licou, pou, i, o, i, a. C'est tonton Archibald, mémé Philomène. Bijou, caillou, chou, genou, hibou. Je vais en prendre pour mon grade. Fini rigolade, la la, quelle salade. Et des potes, visez papa, visez-moi ça. Comme il faut que trotte avec Yana, hola, hola. Tiens, la mémé, grimpez sur le dessus de la cheminée. Et dites tes potes, hola, hola, voyez-moi ça. Comme elle gigote, hola, hola, on croirait pas. Qu'elle est vétuste, tiens, la v'là qui s'élance dans le lustre. Ça, c'est du vrai trapèze, ça, c'est du boulot. Cubu, licou, pou, i, o, i, a. Elle a l'air bien à l'aise, j'y tire mon chapeau. Cubu, licou, pou, i, o, i, a. Oh, tonton Archibald, tu jongles pas mal avec le cristal. Et dites les potes, oui les papas, oui les Diana, oui les Charlotte, oui les Didi, oui les papas, où sont les filles, oui les papas, où sont les filles, oui les papas, où sont les filles, oui les papas.
Et dis Bobby, si ton papa que tu cherches, ben je vais te le rendre.
Et bonsoir, on est dimanche, il est 22h et des brouettes. Vous êtes bien sur Radio Canu et enfin c'est le début de la causerie.
Enfin, parce que ça vous manquait évidemment.
Bah bien sûr. Peut-être que ça nous manquait plus à nous qu'à vous.
C'est possible.
C'est possible.
Un jour on fera une thérapie de groupe à la radio pour savoir à qui ça manque.
On fera des stats. Et ce soir, autour de la table, on a Fab.
Ouais, salut, bah ouais.
On a Clara à la technique.
Bonsoir.
Et on a remplacé Jean-Yves par Rémi, qui est après nous, en fait. Du coup, on a décidé de l'incruster et d'envoyer balader Jean-Yves.
Voilà.
Ouais, on m'a invité gentiment, alors avec plaisir, je participe à l'émission.
Non, mais juste pour dire que Jean-Yves est malade, il est tout malade.
Le pauvre.
Repose-toi bien et reviens en forme la semaine prochaine, parce
qu'on
a des invités la semaine prochaine.
Oui.
Teaser.
Et ce soir, c'est une émission un peu spéciale parce que voilà, justement, Jean-Yves est malade, donc on est plus que deux au micro. Donc on va passer un peu plus de musique que d'habitude, mais
de la bonne quand même.
Voilà, c'est ça. Hein, on ne voudrait pas trop en faire, mais quand même.
C'est la causerie quand même.
Ouais.
Il y a un certain standing, un niveau, quelque chose. Et d'ailleurs, si vous voulez nous dire si c'est bien ou pas la musique qu'on passe, dites-nous, Emma, on n'aurait pas un email?
Si.
Et tu le connais?
Ben, je crois. Tant qu'à faire. Et donc, c'est lacauseriecanu@gmail.com.
Ouais, sinon, ils peuvent trouver le blog où?
Attends.
Attends, là, c'est trop.
J'ai un problème technique.
Ah oui, tu as un problème de lentille qui se barre. Bon. Alors, donc, les amis auditeurs, le blog se trouve à blogs.radiocanu.org. Alors, blogs avec un S, hein, vous aurez compris. /lacauserie. Et il y a plein d'autres blogs à aller voir, donc n'hésitez pas à passer par le site radiocanu.org et voilà, vous pourrez trouver les blogs des autres émissions. Et c'est vachement bien de pouvoir podcaster plein d'émissions. Puis on va juste te dire que si Rémi il est là ce soir, c'est parce qu'en fait on est dans une radio autogérée et que qui dit radio autogérée dit eh ben des fois faut faire le ménage et que c'était notre tour de ménage.
Exactement.
À nos deux
on a passé
émissions.
Notre petit coup de serpillière là.
Hein ben voilà.
Et le plumeau.
Et le plumeau, c'est tout propre et tout beau. Et du coup, qui dit radio autogérée dit on a besoin de moyens pour vivre. livre. Vous avez vu un petit peu introduire
la transition. C'est bon, sacré geste technique. Hein. Voilà.
Et donc du coup, vous savez que Radio Canu en ce moment a pas mal de soucis, notamment parce qu'on a des hausses de loyers qui font que on a du mal à survivre, on va dire ça comme ça, et que on n'a pas de sous-sous et qu'on vous en demande un petit peu si vous pouvez nous filer un peu de maille, du blé, du fric, une valise de billets. Et puis si un ministre qui oublie de payer ses impôts a l'envie de donner faire un don à Radio Canu, il oublie parce qu'on a quand même un peu d'éthique. Donc vous pouvez envoyer vos dons. Et là, j'avais le papier et je l'ai oublié. Alors, Clara qui assure la technique à dons, elle va vous donner l'adresse tout de suite. Ah non, elle va me donner le papier.
C'est pour que tu donnes l'adresse.
Donc vous pouvez envoyer vos dons à Radio Canu, boîte postale 1101 69 201 Lyon CEDEX 1. Vous pouvez le faire par virement, mais là il faut aller sur le site radiocanu.org, il y a toutes les informations qui vont bien. Et si vous avez envie d'entendre encore cette radio pendant plein d'années, et il va falloir nous aider parce qu'on va pas y arriver tout seul. Voilà, c'est bien dit comme ça.
Oui, mais ça j'ai très bien passé.
C'est cool. Et alors aujourd'hui on fait quoi, Emma?
On se balade un peu, il me semble, non?
Tu veux que je le dise moi?
Se balade où?
C'est une balade en espace public. C'est beau, hein? Ouais. Oh, c'est nul comme piste.
Oh,
on dirait un mauvais truc Google.
Oui, c'est ça. Ouais.
Vas-y.
Je me baladais.
Non, je ne mettrai pas, je me baladais pendant la connue.
Je me baladais l'autre jour et... Donc à Lyon, je ne sais pas s'il y en a dans les autres villes, en tout cas s'il y en a, faites-le nous savoir. Et j'ai vu qu'il y avait des messages sur les trottoirs, alors c'est des messages qui sont tagués. On dirait que c'est inscrit à la craie en fait, donc c'est assez régressif, c'est assez sympa. Et c'est des messages, alors on en trouve de toutes sortes, du style « prends ton vélo à la place de ton auto »,« non au racisme », on voit chez le FN, enfin voilà, il y en a un peu de partout. Moi, j'en ai vu dans les rues de Lyon, plutôt vers Gerland, si vous voulez aller les voir, si vous êtes curieux. Et du coup, j'ai trouvé ça super sympa comme façon de faire passer justement un certain discours, parce que c'est des messages qui sont assez rapides en général. On baisse souvent, le blanc en fait. Pousse à baisser la tête et les lire. Et
ça attire l'œil, en fait.
Ouais, ça attire l'œil. Et comme ils sont courts, en fait, il y a un effet qui est assez immédiat. Et je trouvais ça assez sympa. Alors, le souci, c'est que je sais pas du tout qui est l'auteur de ces fameux messages.
Et tu voudrais le savoir. Alors là,
oui.
Tu te dis, si tu es l'auteur de ces messages, envoie-nous un message.
Voilà.
C'est nul.
Ah oui, ouais, on fait ça sur un trottoir. Si, une quête.
Ouais, où on met, voilà, on met nous sur un trottoir. Voilà, je suis, et je sais que vous êtes passé à la causerie.
Ouais.
Ça nous fera de la pub en plus. C'est horrible ce que
toi,
je dis.
Tu...
Pardon.
Toujours le profit. Tu me désespères.
Et mais donc, ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que, c'est ce qu'on s'était dit en faisant la prépa, c'est que c'est un peu une réappropriation, finalement, du trottoir.
Ouais.
Comme outil de, non pas de trucs publicitaires, mais plutôt de trucs, on va dire, militants.
Ouais, revendicatifs et tout ça, ouais.
Et c'est plutôt positif.
C'est plutôt positif parce qu'en fait, on arrive à voir qu'on est un peu dans des espaces qui deviennent saturés. Et du coup, moi j'aime bien quand les gens arrivent à aller ailleurs et à trouver d'autres moyens justement pour communiquer ce qu'ils ont envie de dire. Et le trottoir, en fait, pourquoi pas?
Ah ouais. Mmh.
Non, c'est vrai, complètement. Non, mais moi, j'opine du chef. Oui, c'est vrai. Pourquoi pas le trottoir? C'est qu'on, dans certains cas, on arrive à s'approprier aussi l'espace des murs ou les choses comme ça. Mais c'est vrai que du coup, c'est original. Et puis, c'est vrai que c'est au sol. Et puis, en plus, je suppose que ça doit être utilisé, c'est écrit à la craie blanche.
Ouais, enfin, c'est l'impression de la craie blanche, mais je pense que c'est tagué pour que ça.
Ah, d'accord. Dure. Ouais.
J'ai l'impression que c'est tagué.
Ouais, parce
mais
que
ça
sinon,
rappelle, en fait, la craie blanche. Ouais, c'est.
Il y a un côté tableau noir, craie blanche.
Ouais, c'est
exactement.
Ça, ouais, c'est régressif.
Et donc tu disais qu'il y avait plusieurs types de messages.
Oui, alors j'en ai trouvé d'autres avec des déclarations d'amour, mais j'ose espérer que ce n'est pas le même auteur.
Ouais, toi tu disais que tu as trouvé des déclarations d'amour avec toi dedans, où il y a marqué Emma.
Oui.
Non, c'était des déclarations d'amour en général.
En général, ouais. Ah, oui. Mais qui est Avenue de Saxe, si vous voulez aller la voir.
Ouais.
Voilà.
Ah, c'est bien, ça fait. Mais pour les auditeurs, c'est chouette, c'est un parcours fléché.
Ouais.
Mm-hmm. Donc Gerland, Avenue de Saxe.
Avenue de Saxe.
Bon, elle est longue, l'avenue Saxe, donc...
plutôt... ouais, non,
puis elle est large en plus.
Oui, alors c'est sur le trottoir. Comment vous indiquer ça? Je vais pas faire ma pique quand même.
T'as pas les coordonnées GPS?
Non, alors attends, 191.86.
Non, mais au début de l'avenue ou au milieu de l'avenue?
Non, plutôt pour bien faire chiant, bien au milieu de l'avenue.
D'accord, bah c'est cool alors.
Voilà.
Bah vous chercherez, parce que c'est bien. Et ouais, donc ce soir, on va essayer de vous parler un petit peu de tout ça, de cette réappropriation de l'espace public, mais pour pas forcément, enfin pour des actes militants ou pour des actes artistiques d'ailleurs, parce que pour moi l'art, le vrai art, c'est-à-dire celui qui interroge, il est aussi militant parfois, même si c'est en revendique pas toujours. Et on va essayer de faire ça. Et puis comme on l'avait dit, il y a un peu plus de musique ce soir, donc là on va commencer par une petite coupure musicale tranquille et on revient après pour parler de cette méchante saloperie qu'est la publicité. Et oui, vous êtes toujours à la causerie dimanche 22-23 sur Radio Canu, au 102.2 ou sur radiocanu.org. Et comme vous n'êtes pas en train de regarder le foot, vous nous écoutez, ou alors vous faites les deux en même temps, ce qui est possible.
C'est possible, on peut faire comme ça aussi. Hein.
Ouais, oui, ça tout à fait. Et c'est sympa à vous de nous écouter. Et c'est Annie Lennox avec I Put a Spell on You. Une reprise, hein, comme vous l'aurez compris, parce que cette chère Annie, qui avait un petit peu, je pense, marre de d'écrire des chansons, elle va sortir un album de reprise en octobre. Mais bon, quand on voit la qualité des reprises... on a un peu impatience.
Ouais, ça fait plutôt envie.
Ouais, ça fait envie. Voilà. Et oui, et donc, continuons notre balade.
Oui, notre balade...
En espace public.
En espace public. Et Fab, tu voulais surtout nous parler des messages publicitaires qui viennent un peu nous saturer le paysage.
Bah oui, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais de plus en plus, la publicité est partout. Alors, au départ, on en avait dans des jolis trucs carrés, pas trop grands. Il y avait de la pub, ça c'était il y a une vingtaine d'années. Puis petit à petit, on nous a sorti les 4x3, les fameux 4 mètres par 3 mètres, là, vous savez, les grands panneaux. Puis maintenant, bah, comme ça ne suffisait pas, on en a mis sur tous les abribus, parce que sinon, il n'y en avait pas assez. Puis comme il n'y en avait toujours pas assez, on est venu à vous en coller sur les voitures, parce que comme ça, vous pouvez voir de la pub sur les voitures qui passent dans la rue, c'est très agréable. Et puis comme ça ne suffisait pas, parce que quand même, faut pas déconner, on a autorisé à ce qu'on colle de la pub sur les vitres vides de la ville de Lyon. Je sais pas si vous avez remarqué, il y a plein d'immeubles maintenant où vous avez des publicités, c'est-à-dire qu'on a le droit de faire sponsoriser sa façade, ça s'appelle. Et puis quand il y a des travaux de façade, et ben on a mis des énormes bâches publicitaires pour cacher les travaux. Donc c'est magnifique, vous avez de la pub quasiment sous les yeux tout le temps. C'est-à-dire que c'est pas possible.
C'est même pas quasiment, c'est tout le temps.
Ouais, c'est tout le temps. C'est, vous êtes tout le temps happé par la publicité. Et ce qui, moi, m'intéresse, c'est que, on parlait justement de la réappropriation de l'espace public. C'est-à-dire que, il y a comme une notion qui dit que, bah, la publicité, c'est pas grave. C'est-à-dire que, bah, d'un coup, on peut saturer l'espace public de publicité. Et c'est pas grave. Par contre, si un artiste, parce que là, je vais pas prendre du tout quelque chose de militant. Je vais prendre, enfin, c'est quelque chose de militant dans le sens de artistique, mais c'est pas un message politique fort. Mais si vous avez un artiste qui dit, je veux remettre du beau dans la cité et qui fait ce qui a été fait à Berlin, c'est-à-dire de coller des reproductions de toiles de maître à côté d'affiches publicitaires, eh bien, il écope de 9 mois de prison avec sursis, parce que c'est de la dégradation d'espace public. Donc, vous voyez, il y a comme une espèce de truc un petit peu étrange, c'est-à-dire que vous pouvez saturer l'espace de publicité, clairement, mais vous ne pouvez pas le saturer d'art ou de beauté, et encore moins de messages politiques, parce que je vous rappelle qu'il est interdit d'afficher sur les murs à Lyon, parce que le Deng Xiaoping lyonnais, alias le Grand G, ah c'est pas moi, c'est lui hein, qui l'a dit qu'il était le Deng Xiaoping français.
Et le Grand G, c'est nous.
C'est nous, parce qu'il n'est pas grand. Donc Gérard Collomb a renforcé encore l'arsenal juridique pour empêcher l'affichage sur les murs de la ville. Alors, je reviendrai sur ce que j'avais déjà dit dans une autre causerie. Afficher sur les murs, c'est une pratique quand même militante qui est très très ancienne. Je vous rappelle que à l'époque, dans les années, on va dire 1900, on affichait les journaux sur les murs parce que les gens qui n'avaient pas les moyens de les acheter pouvaient les lire. Donc on collait les journaux, notamment les journaux ouvriers et militants. Ça permettait de donner l'information. Par exemple, ça servait aussi à faire vivre des lieux autogérés pour faire des spectacles ou autres. Voilà, ça sert encore aujourd'hui à ça, mais on a un peu plus de mal à coller. Alors on contourne, hein. On colle avec du scotch parce que c'est pas de la colle, donc comme dans la loi c'est écrit colle, on scotche.
Les dégradations sont pas les mêmes.
Voilà, la dégradation est pas la même, sauf que le problème c'est ça, c'est que petit à petit on part du principe que ce qui était collé dégradait. Et le souci, c'est que, en fait, c'est pas forcément vrai. On se rend compte, par exemple, il y a des villes, comme, je crois que c'est Barcelone, oui, je sais pas de quoi, c'est Barcelone, où il y avait des quartiers où il y avait une habitude d'affichage permanent sur les murs, et qu'aujourd'hui, tout a été arraché pour les touristes. Et en fait, ça a refroidi le quartier. C'est-à-dire que, d'un seul coup, c'est devenu une espèce de lieu, vide, froid, parce que on a peint les murs, ça fait des grands murs blancs, et sur quasiment 900 mètres, vous avez un immense mur blanc où passent les touristes pour aller visiter les choses, et tout le monde dit mais à quoi sert ce mur blanc en fait. C'est-à-dire que alors il y a des artistes qui se sont amusés, comme c'était un mur blanc, à découper des silhouettes et à coller des silhouettes de gens qui marchent pour faire un petit peu artistique, et puis que c'était sympa, je trouve, voilà. Et ils ont été aussi arrêtés et condamnés à une amende et à nettoyer le mur pour qu'on remette un mur blanc. Voilà. Et il n'y a rien de pire qu'un mur blanc quand on y réfléchit. Parce que les endroits où on voit des murs blancs, généralement, c'est les hôpitaux. Des murs blancs. Donc là, vous avez un endroit où on a tué tout droit d'expression et on a mis, du blanc. Et vous êtes en train de le voir arriver à Lyon. De plus en plus, vous avez ce qu'on appelle des façades muséifiées. C'est-à-dire qu'on fait une façade, elle est super bien colorée et tout. Enfin, même d'ailleurs à Lyon, elle est généralement pas très bien colorée, parce que vu les couleurs choisies par la mairie. Mais bon, on fait une façade, c'est et on interdit qu'on colle ou qu'on tague ou qu'on fasse des graffes dessus, parce que c'est pour la protection du patrimoine mondial de l'humanité. Vous savez, c'est le truc Lyon, c'est affiché. Et là où ça me pose un problème, c'est que dans patrimoine mondial de l'humanité, il y a le mot humanité. Et le problème d'une ville musée, c'est qu'elle n'est pas très humaine, quoi.
Ouais. Manque de chaleur, ouais, c'est clair.
C'est que d'un coup, on vit plus. C'est-à-dire qu'on est dans une ville où tout est musée et où est l'humanité. C'est-à-dire que c'est bien, on a un patrimoine mondial de l'humanité déshumanisé. Et il y a des gens qui vont me dire ouais mais les tags partout ça fait chier tout ça.
Ça dépend lesquels, c'est vrai qu'il y en a certains qui sont un peu.
Bon, mais on est d'accord, c'est que ça peut être gênant, c'est mais ça fait partie du vivre ensemble.
Bien sûr.
Et le souci c'est que ce n'est pas pour moi la force publique de dire ce qui est beau ou pas beau, ce qui doit être vu ou pas vu, parce que là on rentre dans une sorte de je vais employer le mot mais de dictature de la pensée et de dictature de ce qui a le droit d'être vu et pas vu. Et on le voit par exemple avec la Biennale de la danse. Alors la Biennale de la danse c'est magnifique. La Biennale de la danse, c'est de l'art, hein. On est d'accord. Vous savez, à Lyon, il y avait des groupes d'artistes qui se mettaient à danser au milieu de la place Bellecour à une époque. Si vous avez connu ça, c'est pas si vieux, c'est il y a 5 ans. Ne me faites pas passer pour un danseur. pour un vieillard. Mais ils se mettaient à danser au milieu de la place Bellecour et c'était devenu une sorte de happening, ouais, comme on dit maintenant, assez sympathique. Voilà. Et bien, petit à petit, ça a été récupéré par les mairies, par les sponsors, pour en faire quelque chose de très officiel. Et ça donne ce que vous avez aujourd'hui, les cours de tango sur la place des Terreaux, tous les dimanches soirs. Et voilà, ça a été récupéré pour devenir très officialisé. Mmh. Et donc, on est passé de quelque chose de spontané, qui créait du lien très facilement, à quelque chose de très codifié, de très froid. Et la Biennale de la danse, c'est pareil. On fait le joli défilé où tout le monde peut défiler. Et puis après, on dit aux gens, bah, vous payez 30 à 40 euros votre entrée et puis vous faites pas chier. Vous voyez, il n'y a plus de off, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que le défilé pour le bon peuple, en gros.
Exactement.
Et puis le reste, vous payez. Ouais. Et en fait, c'est ça la muséification. C'est-à-dire que l'espace public ne sert plus à créer du lien, ne sert plus à créer des rencontres entre artistes et entre non-artistes, à créer des rencontres entre militants et non-militants. C'est devenu un lieu neutre où on est censé faire que passer. Et c'est ça, moi, qui m'embête. C'est qu'une ville où on ne fait que passer, bah, c'est une ville morte, quoi. Mmh. Et c'est une ville étouffante, même, à la limite. Et il y a un très bel exemple de ça. Il y a un artiste qui est connu, qui s'appelle Banksy, je crois que ça se dit comme
oui,
ça, qui justement essaie de lutter contre ce truc-là et de mettre des trucs un peu beaux là où on les attend pas. Et très récemment, il a été à New York parce qu'il voulait tuer l'art, parce qu'on voulait vendre de ses œuvres, il voulait tuer le prix de ses œuvres, parce qu'il trouvait ça dégueulasse qu'on vende de l'art, enfin ce qu'on vende sur tout ce qu'il faisait. Et il a fait, dans la ville de New York, il a dessiné des fleurs, des personnages, des choses très très jolies. Enfin, il faut aller voir, hein, il y a tout tapé sur Internet, Banksy New York, vous trouverez, c'est très joli. Et en fait, bah, les autorités se sont retrouvées coincées, parce que c'était une œuvre d'art d'un artiste connu, et qu'en même temps, elles auraient été censées les effacer. Et là, bah, y a eu tout un débat de dire, mais est-ce qu'on efface un artiste connu? Et Banksy répond, il dit, mais moi je suis connu, mais l'autre artiste qui aurait fait quelque chose de beau, vous l'auriez effacé.
Ouais.
Pourquoi moi? Parce que j'ai une aura un petit peu particulière. D'un seul coup, vous dites, ah bah non, ce tag-là, ce graphe-là, je ne l'efface pas. Et en fait, c'est drôle parce que dans sa démarche, il voulait démontrer justement qu'il y a l'art autorisé et l'art interdit. Mmh. Et pourtant, tout est art et tout est beauté ou pas, parce que la beauté, c'est subjectif. Et du coup, cette démonstration-là, je l'ai trouvée assez magnifique de se dire que la ville de New York a dû faire une réunion en urgence de son cabinet de la mairie pour savoir si oui ou non on effaçait des tags, parce que c'était considéré comme des tags pour la mairie de New York, parce que le graphe n'existe pas dans la loi, hein. Vous savez, c'est tag point barre. Et se dire est-ce qu'on l'efface ou pas, bah c'est magnifique parce que c'était la plus belle démonstration d'un espace public qu'on a rendu complètement stérile et où quelqu'un a dû mettre un petit grain de sable en disant tiens, et moi alors si moi je fais une œuvre là, et d'ailleurs Banksy dit, imaginons une époque révolue, où Léonard de Vinci aurait fait du tag et aurait dessiné la Joconde sur un mur au lieu de la dessiner sur une planche de bois, bah, qu'est-ce qu'on aurait fait? Et c'est la bonne question. Et Banksy dit, eh bien, si on avait appliqué ce qu'on fait aujourd'hui, comme il n'était pas connu à l'époque, on l'aurait effacé.
Ouais.
Voilà. C'est une belle réflexion sur l'art et sur l'art dans l'espace public. Voilà, moi je trouve que cette ville, elle commence à, enfin je parle de Lyon, commence à devenir de plus en plus triste. Alors remettons des affichettes.
Ouais.
Faisons des petits graphes. Hein, c'est bien.
C'est sympa, ouais.
Oh ouais.
Oui, oui. Je suis vivant, mais en même temps, quand il y a de la vie, il y a forcément des choses comme ça.
Il y a de l'espoir.
En plus, mais il faut, c'est vivant, il faut que ce soit vivant, il faut que ça bouge. C'est sûr, tu disais que ça fait, enfin, passer, bah, déjà, moi, après, ça, c'est les choix personnels, mais j'ai déjà horreur des appartements blancs quand tu rentres chez quelqu'un et que c'est toujours tout blanc. Après, chacun fait comme il veut.
Ah, mais c'est un appartement Ikea.
Mais, enfin, je sais pas, moi, je trouve que c'est triste, quoi. Il faut mettre de la couleur, faut mettre de la vie, faut mettre des choses, quoi. Faut que ça bouge. Quitte à ce qu'à certains moments, ça puisse ne pas plaire à certaines personnes ou pas.
Il faut que ça te plaise à toi, d'ailleurs.
Ouais, voilà. Mais, enfin, voilà. Après, tout à l'heure, tu t'évoquais ça par le biais de, enfin, tu disais, il faudrait savoir, c'est pas forcément aux politiques de décider ou aux forces de l'ordre ou je sais pas quoi, ce qui est possible. Alors à ce moment-là, il faudrait que les citoyens, eux, puissent donner leur avis là-dessus,
tout
quoi.
À fait. Mais je pense que pour pouvoir donner son avis, il faut le voir. Parce
ouais.
que
ouais, exact.
C'est, tout le problème, c'est qu'on interdit de faire, donc du coup, bah, ça n'existe pas, de fait. Et donc, comment on peut avoir un avis sur quelque chose qui n'existe pas. Alors que moi, je trouve que par moment, enfin, moi, l'exemple de Banksy est très bon. C'est que Banksy est devenu célèbre parce que les Anglais ont trouvé ça génial. Parce que les gens ont dit, mais c'est génial ce qu'il fait. Et c'est bien parce qu'il a pris l'espace public et qu'il a, il a été contre la loi à un moment donné, mais que ça a pu exister. Et là, en fait, on interdit en amont, mais de façon extrêmement de plus en plus répressive, l'émergence de ce genre de courant. C'est hyper dommage, je trouve.
Ouais, carrément, ouais, bien sûr.
Et quand tu fais la comparaison avec des villes en Allemagne, dont l'exemple de Berlin, où eux créent carrément, enfin c'est souvent des lieux qui sont abandonnés, mais ils laissent ces lieux pour les artistes, et justement pour qu'ils expriment leurs graphes, et du coup bah, t'as toutes sortes de graphes. Tu vas avoir vraiment les fameux graphes noirs avec qu'on connaît bien.
Je suis passé ici.
Ouais, voilà.
J'ai mis mon nom.
Voilà.
Et des graphes plus poussés, quoi. Mais au moins, et puis c'est assez sympa parce que tout se rencontre. Et les gens sont invités à aller là-bas, à circuler. Reprenons le terme de balade, mais voilà, c'est vraiment aller se balader, voir des œuvres et voilà quoi.
Et donc tu veux dire que là, juste après la petite musique, on va reparler de comment les espaces ouverts, fermés, les lieux abandonnés, pas abandonnés, tout ça ?
Par exemple.
Par exemple ?
Ouais.
Alors ?
Mais en attendant, on s'écoute un petit brin de musique.
C'est parti.
Vous êtes de retour dans la causerie Radio Canu 102.2 et on vient de s'écouter Morrissey avec You Have Killed Me.
C'était un papy, c'est ce que tu disais.
Un dandy papy.
Et justement, Emma, quand on a fait la prépa, ouais. on parlait justement de ces fameux lieux, tu l'abordais à Berlin, qui sont laissés aux artistes et tout. Oui. Et alors, tu vas nous dire, en France, c'est
en
pareil
France.
Ou pas?
Bien sûr, en France, vous savez, dans ce pays idyllique et tout ça. Non, pas du tout. En fait, tout ce qui est lieux abandonnés, bon, déjà, sont tout de suite mis dans un certain cadre au niveau de la loi. Mais là, je m'adresse pour que ce soit les photographes, les artistes ou ceux qui font de l'urbex, enfin de l'urban exploration, d'exploration urbaine, quoi.
Pour ceux qui connaissent pas, on avait reçu.
Ouais, on avait reçu Pascal.
Qui était nous présenter l'International Utopie. Et qui a un superbe article dedans sur l'exploration urbaine.
Voilà, ouais. Ouais. C'est tous les gens qui vont visiter. Les lieux un peu moins connus, que ce soit des souterrains, des lieux abandonnés, voilà, ça rentre dans ce cadre-là. Et en fait, c'est vraiment cadré, c'est-à-dire que dès qu'un lieu est abandonné, alors qu'il soit dangereux ou pas, parce qu'à Lyon, on a des exemples, hein, on a le fort militaire de Loyasse qui est abandonné depuis des années et effectivement qui est menacé d'écroulement d'une minute à l'autre. Donc voilà, après, on prend ses précautions quand on y va. Mais il y a d'autres lieux abandonnés qui sont quand même assez sûrs, surtout quand ils viennent juste d'être abandonnés. Je parle de certains, par exemple, hôpitaux, certaines maisons de retraite, certaines écoles. Mais du coup, on nous dit maintenant de faire des demandes à la mairie pour aller, que ce soit aller pour faire une visite de ces lieux abandonnés, pour prendre des photos, pour aller taguer à la rigueur. Alors, il faut savoir que, j'ai pas personnellement testé, mais j'ai un ami juste pour justement faire le test qui a demandé, qui a fait la demande à la mairie. Il me semble qu'il a eu une réponse 2 ans après. Alors, je vous laisse imaginer que 2 ans après, le lieu abandonné n'existait plus. Et en fait, voilà, c'est encore pour dire que c'est vachement cadré. Et en fait, je sais pas si c'est fait exprès. Mais je pense qu'ils encouragent limite à braver l'interdit parce qu'ils savent d'avance qu'en mettant de compliquer un truc administratif comme ça, sachant que il pourrait y avoir quelqu'un qui. Je pense qu'il n'y a pas 30 000 demandes qui arrivent par jour, donc je pense qu'ils doivent les empiler sous un fameux tas de dossiers. Et c'est juste que c'est encore une espèce de barrière de nous dire ça et en même temps de nous faire savoir que c'est réglementé et tout ça pour acquis de conscience. Mais en même temps, ça n'empêche pas. C'est encore mettre des barrières derrière tout ça.
Ouais, et puis en plus, moi, ce que je trouve étonnant, parce que je ne savais pas d'ailleurs qu'on pouvait demander. Pour moi, tout se faisait dans l'illégalité, quoi. Ouais. Parce que voilà, mais je ne savais pas qu'on pouvait poser une demande officielle. Mais ce que je trouve vraiment étonnant dans cette histoire-là, c'est que. Je vais prendre un exemple très bête, si vous avez un dignitaire chinois qui viendrait par exemple, à la mairie de Lyon, vous pouvez privatiser des rues pour le dignitaire chinois sans aucun problème.
Ouais, on l'a déjà vu.
Voilà, s'est vu il n'y a pas très très longtemps. Là,
j'ai barré toutes les autoroutes, tout c'était tout fermé.
Voilà. Là, vous pouvez privatiser des rues. Alors par contre, si vous avez une personne qui dit, ce lieu est abandonné et je voudrais pouvoir faire des photos ou taguer dessus, parce qu'on s'en fout, il va être détruit. Je veux dire, on s'en fout dans le sens où ça ne va pas rester, donc à la limite, même la mairie s'en fout. Et ben là, on prend le truc inverse de dire pour votre protection parce que ça peut dégrader l'espace public et puis ça peut déranger les gens. Et quand vous fermez des rues c'est ce espèce de poids de mesure permanent que je trouve juste hallucinant, quoi. C'est-à-dire que qui ça emmerde très concrètement que quelqu'un aille faire des photos dans une usine désaffectée ou dans un hôpital désaffecté ou taguer les murs, ça emmerde personne.
Sachant que en plus si on les prend au mot, le truc de la protection ça a aucune portée puisque de toute façon le lieu est abandonné. Donc du coup, c'est l'assurance même de la personne qui joue.
Oui, c'est ça.
Entre guillemets, et puis ça saurait si votre chère mère en avait quelque chose à foutre de votre vie. je vais pas l'inventer quand même.
Non, ça c'est vrai. Sinon, il recevrait peut-être pas des dignitaires chinois s'il avait un sens de la vie. C'est un long débat. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'épate, c'est qu'encore une fois, on a créé un espace administratif qui sert juste à enterrer l'envie, quoi.
Ouais.
C'est-à-dire, vous faites une demande et puis vous avez des réponses 2-3 ans après, et avec pour but quand même premier toujours de tuer toute chose qui sort du cadre. Mm-hmm. C'est-à-dire, bah non, ça c'est interdit parce que, oulala, s'il venait à taguer sur le mur quelque chose d'un peu politique, ça va nous embêter. Enfin, il y a un bel exemple, tiens, ça vient de me revenir. C'est pour les gens qui prennent le périphérique à Cusset, il y a des gens qui doivent être syriens et qui ont mis depuis des années sur leur balcon, donc c'est un balcon privé, qui ont mis Vive la Syrie libre avec le drapeau, voilà. Et ça m'amuse parce qu'en fait je me dis bah voilà un bel exemple de pied de nez, c'est-à-dire que je pense qu'on peut pas forcément leur dire grand chose parce que c'est un espace privé et pourtant c'est un truc très politique et c'est bien que ça existe et je me dis bah c'est bien qu'il y ait des gens qui aient cette créativité là de dire bah ouais c'est mon balcon donc comme c'est mon balcon j'y mets bien ce que je veux et c'est vraiment peint, c'est très très beau, enfin c'est peint très joliment. Et je vous dis, voilà, c'est un exemple. Je pense que c'est ça dont ils ont peur, c'est-à-dire que les espaces abandonnés puissent servir à véhiculer des messages qu'on interdit par ailleurs. Quoi. Et du coup, on crée cette espèce de truc administratif pour dire, ah là là, ils vont se décourager, ils le feront pas. Donc, il faudra continuer à le faire illégalement. Quoi. Je suis pas censé le dire, ça. Mais...
Pas censé le dire, mais voilà, vous avez bien compris la chose.
J'assume mes dires. C'est bien, non ?
Ouais. Ouais, c'est bien.
Quelque chose à ajouter ?
Non, pas du tout. Impeccable.
Un peu de son, du coup ?
Ouais, du coup, ouais. Alors, juste avant qu'on lance la musique, Jean-Yves, je sais que tu es malade et que tu écoutes cette émission. C'est le titre que tu vas pas aimer.
Oui, donc octroie-toi, ouais. 3 minutes pour aller prendre tes cachets ou quelque chose comme ça et baisse le son.
oh que c'était bon. Pardon, j'ai cru que ça n'avait pas marché mon hoc, mais en fait il a marché. Voilà. Et ben oui, c'est la causerie dimanche 22-23 comme d'habitude. Donc ça, vous avez l'habitude, on passe un peu tout type de musique.
Oui.
Et là c'était Epica avec The Phantom Agony et c'était donc du métal symphonique. Voilà, c'était pour dire ce que c'était.
D'accord.
Alors, oui, juste rappeler que Rémi, de l'émission...
Oui, il n'intervient pas beaucoup, mais il est là, il écoute pas mal ce qui se passe. Ouais,
Il est là, et alors Rémi, vous le connaissez peut-être pas, mais en fait, il est dans l'émission qui est après nous.
Oui, juste après, 23h minuit, les yeux grands ouverts, voilà. Encore ce soir. Je vais attaquer la quatrième émission sur les médias, et on va clore le sujet ce soir, voilà.
Donc,
de 23h à minuit.
Donc, après la causerie...
Merci pour l'invitation, d'ailleurs, c'est très 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 aimable à vous.
C'est avec plaisir.
C'est gentil.
C'est avec plaisir. Et, mais surtout, n'oubliez pas donc, de ne pas couper votre poste après la causerie, parce que maintenant, il y a une émission après nous. Donc, il faut l'écouter.
Parce que c'est l'idée.
Il n'y avait personne, mais là, maintenant, il y a quelqu'un. Donc, et ben, moi, je vais vous parler, on continue notre balade urbaine, en espace public. Je vais vous parler vite fait de choses qui se font de plus en plus et qui ont été malheureusement un petit peu récupérées. Ce sont les happenings. Vous savez, à une époque, c'était... maintenant, on dit des flash mobs ou des trucs comme ça. Enfin, vous voyez, c'était des choses qui servaient à une époque, ce qu'on appelait... ça a été inventé par les anarchistes, ça s'appelait comme ça. C'était un groupe d'artistes anarchistes qui avait inventé le happening urbain. Alors, le happening urbain, c'était des choses très, très drôles. C'est par exemple, vous mettez au milieu d'une place, vous montez sur une caisse et vous mettez à déclamer un texte qui secoue un petit peu les mentalités ou interpelle un peu les gens. Et hop, d'un seul coup, vous reprenez votre caisse et vous partez. Comme ça, ça laisse les gens un petit peu quoi. Il y avait dans les artiste, il y avait aussi des danseurs qui avaient créé en fait une chorégraphie urbaine qui finissait par la mort de tous les danseurs et qui symbolisait la guerre. Donc en fait c'était assez très explicite, on comprenait très bien de quoi on parlait. Voilà, donc tout ça émergé.
C'était totalement informel.
Oui, c'était des groupes plutôt informels et puis ils se réunissaient juste pour faire des choses comme ça.
D'accord.
Alors ils ont fait aussi d'autres choses dans l'art, dans l'écriture, dans des choses comme ça. Mais là, je vais vraiment parler du happening urbain parce que je le trouve intéressant. Et du coup, voilà. Donc c'était des choses qui existaient et petit à petit, ce mode de communication, il a été un petit peu récupéré. Alors d'abord par les gens eux-mêmes à travers les nouvelles technologies, parce que sur YouTube, on s'est vu avoir, j'ai cité une marque, c'est pas grave. Enfin, sur les trucs où il y a de la vidéo, on a vu apparaître de plus en plus, vous savez, des flash mobs, des freeze, des trucs comme ça. Enfin, et alors ça avait un côté assez assez tendance et assez pas mal. Hein,
pas communautaire, mais c'était assez.
Ça réunissait les gens.
Ouais,
quoi.
Voilà, exactement.
Ça avait un côté cool. Et puis, très très vite, ce bon vieux capitalisme a compris que c'était un bon outil de communication.
Oui.
Et donc, on a commencé à voir des flash mobs pour promouvoir une chanson. Eh oui, Because I'm Happy, ça vous dit rien? C'est un truc lancé par la maison de disques de Pharrell Williams qui avait donc eu la bonne idée de dire tiens, on va faire un clip type flash mob avec Pharrell Williams et tout le monde va vouloir le faire et ils n'ont pas eu tort. Il y a eu, je sais crois, quelque chose comme 90 000 happy dans le monde.
Oui.
Alors ça a coûté 91 coups de fouet aux Iraniens qui l'ont fait d'ailleurs au passage.
Ah ouais.
Donc voilà, mais c'est juste pour dire que c'était quand même au départ quelque chose qui peut paraître comme ça spontané. Et en fait, au final, on se rend compte que c'est un bon gros coup de marketing.
Ouais, ça a été récupéré par beaucoup de marques et même par certains comités et tout ça.
Ouais. Et c'est là que ça devient problématique parce qu'on passe de quelque chose qui était au départ, comme tu le disais, informel, spontané, à quelque chose qui devient de plus en plus marketé et qui fait que du coup, vous allez avoir, on commence à le voir, les happenings autorisés et les happenings pas autorisés. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme dans ce qu'on disait dans l'art. Ouais. Donc vous avez maintenant des mairies qui disent alors le happening s'il est sponsorisé par telle ou telle marque, pas de problème, vous pouvez le faire sur la mairie, sur la place machin. Par contre, si c'est des gens qui ont envie de se réunir pour faire un petit truc de danse une fois comme ça pour se marrer, ça non, parce que c'est pas encadré, vous voyez, c'est le truc toujours la sécurité qu'on met en avant. Mais on se rend compte que c'est parce qu'en fait ces happenings historiquement ils avaient un rôle beaucoup plus grinçant que ce qu'ils n'ont aujourd'hui. Et pourquoi on voit arriver justement c'est autorisé et pas autorisé, c'est que de plus en plus de mouvements, alors je pense notamment aux indignés, aux Occupy Wall Street, aux anarchistes barcelonais aussi qui ont fait un super happening en transformant le V que devait dessiner la manifestation en A anarchiste, en coupant une rue de rue comme ça. Voilà, et ça commence un petit peu à emmerder les autorités parce qu'il y a des gens qui se réapproprient cet outil qui vient déjà au départ de la militance pour en refaire des outils militants. Alors ça leur plaît pas bien quand même. Donc du coup, on commence à refaire du flicage, ouais, on va dire ça, c'est comme ça, où on interdit les, parce que vous savez, ça peut ralentir, par exemple, si vous faites un happening dans une gare, ça va faire ralentir les gens, ils vont rater leur train. Mm-hmm. C'est bien connu que on bloque toute la gare hein, quand on fait un truc. Et puis si vous faites dans un aéroport, ils vont rater leur avion.
Hein. Bah oui, par contre, quand une grande marque s'en sert et fait un flash mob sur 2-3 jours, là, on laisse passer.
Tu veux dire comme Air France?
Par exemple.
Voilà. Donc voilà. Non, mais c'est pour dire. C'est. Je voulais parler de ça parce que je trouve vachement dommage, justement, de voir à quel point on laisse nous. Là, je parle de nous en général. Ces outils-là redevenir, enfin, devenir des trucs marketing et qu'on les détourne pas, qu'on les prend pas après leur propre jeu. Et alors, juste pour parler de quelque chose qui s'est passé et qui m'a fait rire. C'est en Malaisie. Alors, vous voyez, c'est pas forcément le pays où j'aurais cru que quelqu'un ait l'idée de faire ça, mais j'ai trouvé ça très drôle. Apple avait prévu un énorme flash mob pour fêter la sortie de l'iPhone 6. Vous voyez, parce qu'il y a des trucs super importants dans la vie.
On n'y était pas.
Du coup, voilà. Et bien, en fait, il y a un petit malin qui s'est amusé en fait, à dérouler une banderole sur laquelle était écrit que c'était le iSlave 6 pour dénoncer les conditions de travail des gens dans les usines Apple, parce qu'il y en avait là-bas.
Foxconn.
En Indonésie, voilà, Foxconn. Et en Chine, il y a eu exactement la même chose qui s'est produite 2 jours après. Et ben voilà, exactement le type de petit happening qu'on peut faire et qui font bien chier les multinationales et les autorités. Donc, ne nous privons pas.
Oui.
Voilà, c'est une envie de lancer, une envie de faire des banderoles, tout ça. Ouais, bravo. Il y a eu un but,
a priori. Un but
apparemment,
oui.
on a été submergés par le bar d'à côté.
Je savais pas d'où ça venait. C'était étrange, hein.
Ouais, mais j'ai cru qu'il m'applaudissait, que c'était,
moi aussi,
ça leur plaisait.
Peut-être.
C'est pour moi, en fait.
Bon. Bah, on va mettre un peu de musique pour couvrir tout ça, parce que moi, les chants de supporters, je supporte pas trop, justement.
J'y arrive pas.
J'arrive pas.
Petite tigresse, ouais.
Lo tengo todo, papi, lo tengo todo, papi. Tengo fly, tengo party, tengo una sabrosura. Tengo todo, papi, lo tengo todo, papi. Tengo fly, tengo party, tengo una sabrosura. Tengo todo, papi, lo tengo todo, papi. Tengo fly, tengo party, tengo una sabrosura. Tengo todo, papi, lo tengo todo, papi. Tengo fly, tengo party, tengo una sabrosura. Come on, cookies on my side. You riding in me, so let's cruising down the avenue. But papi, you keep blowing all that tigreazo in the air. You blocking me, you blocking me. And I'm just trying to get to Friday. You jockeying me. Around the boots and all, I got a walking tall. Chimmy Judy sauce in the hood, making girls eat up what's good. Tengo todo, papi. Lo tengo todo, papi. Tengo fly, tengo party, tengo una sabrosura. Tengo todo, papi. Tengo todo, papi. Tengo fly, tengo party, tengo una sabrosura.
Ça se termine,
bien,
ça prend
ouais, vous êtes bien de retour à la causerie, on n'était pas prêts du tout.
Mais ça y est, on est prêts.
Comme vous pouvez le voir. Ouh, ça va. Donc on vient de s'écouter Maluka avec El Tigueraso.
C'était bien.
Ouais.
Merci pour la découverte.
Je vous en prie.
Ben justement, je vais juste faire un petit appel et après ouais. on passera un nouveau titre, et après on revient, et après on finit. C'était pour dire ce qui va se passer dans les émissions. Mm-hmm. Alors moi, je vais juste te rappeler que ben, on parlait de réappropriation de l'espace public ce soir sur le 102.2 Radio Canu. Et du coup, je voudrais bien dire aux gens que c'est hyper important de soutenir les actions qui en ce moment sur les différentes ZAD, parce que vous avez plusieurs ZAD en France, c'est des zones à défendre, hein, je vous rappelle les ZAD, donc la plus connue c'est celle pour l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, mais il y a le Testet, il y a tout ça, donc allez-y, soutenez si vous êtes à côté ou si vous êtes loin, envoyez de l'argent, enfin voilà, aidez les gens, c'est important parce que les ZAD c'est quoi? C'est juste des gens qui se défendent pour qu'on garde des espaces agricoles ou des espaces protégés et qu'on n'y mette pas dessus des aéroports ou des barrages qui servent à rien, qui servent juste à démontrer une nouvelle technologie de barrage pour pouvoir la vendre à l'étranger, parce que ce n'est que ça par exemple sur une autre ZAD, et c'est hyper important d'être aux côtés des gens qui se battent, parce que je pense que dans 30 ou 40 ans on sera content d'avoir des zones où on peut faire pousser de la bouffe plutôt que décoller un avion, c'est un avis personnel.
Carrément. C'est utile au passage.
Oui, un peu.
Légèrement utile.
Et puis du coup, ouais, faire un appel aussi à soutenir les différents squats que vous avez autour de vous, parce qu'il y en a plein qui sont connus. Suivez Rebellion, hein, vous aurez toutes les infos quasi en temps réel. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un truc qui est vieux comme le monde pour moi, qui suis un vieil anarchiste sur le retour, c'est que la propriété c'est le vol, et que donc à partir du moment où des gens ne peuvent pas se loger, quand certains prennent des espaces vides pour se loger, pour moi c'est pas un crime, ça s'appelle juste une réappropriation, et qu'il faut soutenir ces initiatives là parce que elles se font pas toutes seules, elles se font pas qu'avec les gens qui prennent le lieu. Quand vous êtes voisin d'un squat, allez les voir les gens, parce que vous verrez c'est pas des méchants, ils vous mordent pas, et en général que vous verrez que c'est des voisins plutôt sympas. Et que c'est toujours mieux d'avoir un squat à côté de chez soi qu'une entreprise lambda qui va y mettre des bureaux. Voilà. C'est un peu plus vivant en général. Donc voilà, j'avais envie de dire, ouais, soutenez toutes ces initiatives-là, parce que c'est aussi une réappropriation de l'espace public, et que, à un moment donné, dans espace public, il y a public, et toi, public qui m'écoute, c'est important que tu t'impliques. Voilà. C'est nul, là. Hein, j'avais envie de la faire, ça. Okay. Et un petit peu de musique. Un gospel sans Dieu.
Didn't get it from the Lord, but I know I got it, I know I got it. I didn't get it from the Lord, I got it from my brother.
I get involved, I know I get involved, Lord. I
Et oui, c'est toujours La Causerie. Vous avez reconnu Camille, chanteuse un peu folle, mais qui fait un très très beau titre avec A Gospel With No Lord. Voilà. Bah j'ai un accent anglais de merde, mais je m'en rends compte de plus en plus. Hein.
Mais parce que le gospel sans Dieu, ça fait du bien.
Ouais, c'est bon. Moi, j'aime bien. Et donc, écoutez Camille.
Oui.
Voilà. Bon, eh ben, on va remercier déjà, parce qu'on va bientôt se quitter, donc on va remercier Rémi d'être venu.
Mais c'est moi qui vous remercie pour l'invitation, c'est cool, c'est sympa. Voilà.
Et comme tu le vois, on va encore rendre l'antenne un petit peu.
Ouais, vu, je disais, je suis en colère. Hein. Non, non, je suis pas content. Combien 5 minutes. Ouais, bon, ça va.
Donc voilà, du coup, il va pas être content et il va pas revenir, du coup. et puis Emma.
Oui.
Qui c'est qu'on reçoit la semaine prochaine?
Oh là là. La semaine prochaine, si vous avez suivi l'émission de la semaine dernière, on l'avait déjà annoncé. Donc, la semaine prochaine, vous avez peut-être aperçu grimé de blanc avec des grandes cornes et des colliers de perles.
Des cornettes, pas des cornes.
Des cornettes, oui. Des cornettes et des voilages et des colliers de perles. On reçoit les sœurs de la perpétuelle indulgence du couvent des 69 Gaules.
Et on est super contents.
Oui.
Donc voilà, bah donc la semaine prochaine, vous aurez la joie et l'immense bonheur de retrouver La Causerie en interview avec les sœurs de la perpétuelle indulgence. Et puis bah juste quand même pour rappeler aux gens ce que sont les sœurs de la perpétuelle indulgence, bah je vais le redire, ils tapent sur leur moteur de recherche préféré et ta sœur, et ils regardent le joli documentaire qui existe et qui raconte l'histoire de ce mouvement qui est né dans les années 80 à San Francisco, si je me trompe pas. Oui. Mais si je me trompe, elles me puniront.
Oh oui, elles me châtieront.
Et puis c'est tout. Et ben voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. C'était bien.
Ouais.
Et Emma est super flippée parce qu'elle nous annonce le dernier titre et on a pris un titre avec un artiste qui a un nom, ou une artiste, pardon, imprononçable.
Pourtant, je préfère le dire, c'est choisi, surtout de ma part, ça fait partie de
tes choix musicaux.
De mes choix musicaux, mais alors, bon, soyez indulgents. Alors, on va s'écouter. Alors, le titre, déjà, ça sera plus simple, c'est Seaver. Et ce cher groupe, c'est donc I Am. Ami, vous, I Am.
Voilà.
Bravo.
Et ben, vous savez quoi, vous êtes sur le blog de l'émission, il y aura le nom et
ouais,
tout.
Ouais, parce
du
que
tout,
vous embêtez pas à retaper, c'est compliqué.
Donc, et ben, on vous fait à tous des gros bisous.
Ouais, hein, des bisous.
À la semaine prochaine.
Bonne semaine.
Rémi, encore merci.
Ben, pareil. Ouais,
merci. On va te passer la main et tu vas pouvoir faire ta
À tout de suite aux auditeurs. Et puis, ben, merci encore pour l'invitation.
Mais de rien. Avec plaisir. Et puis tu reviens quand tu veux.
Il n'y a pas de souci.
Mais la prochaine fois, mène de la bière. Allez, salut.
Bonne semaine.
Tous.